Vous écoutez, on lit pour vous.
De plus en plus de villages sans commerce au Québec. Un texte de Sarah Boumeda et Jean-Louis Bordelot, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir. Les commerces de détail disparaissent peu à peu en région. Entre 2006 et 2022, la proportion des villages québécois qui n'ont aucun magasin sur leur territoire a presque doublé, montrent des données de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, compilées par Le Devoir. Françoise Bouchard et ses concitoyens ont tenté par tous les moyens de sauver l'unique commerce du village de Dixville en Estrie. La municipalité a aidé comme elle a pu. La relève était là, ça aurait pu continuer, raconte la mairesse de la municipalité d'environ 800 habitants. Après avoir perdu leur magasin général dans les années 1990, des gens du public se sont mobilisés pour ouvrir un dépanneur sous forme de coopérative dans les années 2010. Malgré la meilleure des volontés, une suite de malchances a plombé l'initiative. Les pratiques frauduleuses d'un entrepreneur ont d'abord plongé les finances dans le rouge. Puis, la pandémie a été le dernier clou dans le cercueil. La gestion quotidienne était beaucoup de bénévolat, note la mairesse. Et l'enthousiasme des bénévoles s'est effrité. Tout a pourtant été essayé pour garder le commerce ouvert. Sa transformation en dépanneur dit intelligent, muni de caisses libre-service, un partenariat avec le restaurant d'à côté pour l'écoulement des denrées presque périmées, de la promotion auprès des villageois. Les gens n'ont pas pris l'habitude d'aller au dépanneur, souligne Françoise Bouchard, car Dixville est seulement à 7 minutes de la ville de Coaticook et de ses magasins à grande surface. Cette fermeture est loin d'être un cas unique, autant en Estrie qu'ailleurs sur le territoire québécois. Sur les 458 municipalités québécoises de moins de 1000 habitants, 95, 20,7% n'ont aucun commerce de détail, selon des données du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation publiées par l'ISQ. En 2006, cette proportion n'était que de 11,6%. En comparant les données par régions administratives, Le Devoir a constaté qu'en nombre absolu, le Bas-Saint-Laurent, l'Estrie, l'Abitibi-Témiscamingue et Chaudière-Appalaches trônent au sommet de cette désolante liste. Ces régions regroupent aussi le plus de villages au Québec. Cela dit, elles comptent tout de même parmi les régions où la proportion des municipalités sans commerce est la plus haute. L'Estrie sort d'ailleurs du lot. Même si la région a connu la plus forte hausse de population totale entre 2006 et 2022, soit 16,8%, cette augmentation est surtout attribuable aux centres urbains de son territoire. En effet, l'Estrie est l'endroit où le nombre de municipalités de moins de 1000 habitants a le plus augmenté durant la même période, ce qui s'est fait à mesure que les villages se vidaient au profit des grands centres. Des habitudes qui changent. Comment expliquer cette disparition? Les gens ne consomment plus nécessairement de la même façon aujourd'hui qu'en 2006, explique Jean-Philippe Meloche, professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. La transition vers le commerce en ligne a certainement eu une influence sur le phénomène, mais aussi, note-t-il, le réflexe de plusieurs personnes de prendre leur voiture afin de se procurer des produits plus rares ou simplement à meilleur prix. Les gens sont plus mobiles aujourd'hui, confirme le professeur. Ils ont préféré aller dans les grandes surfaces un peu plus loin que d'aller dans une petite boutique un peu plus proche. Car, en réalité, plusieurs des municipalités ayant perdu un commerce de détail dans les dernières années étaient situées à proximité d'un centre urbain aux commodités multiples. Et donc, rien qu'à un trajet de voiture, des grandes surfaces et des boutiques spécialisées. Éventuellement, les magasins régionaux ont pris le dessus sur les magasins locaux, résume le chercheur. Même si l'on observe le même phénomène partout dans la province, même en ville, dans les petites communautés, ça finit par faire une différence. On a moins de commerce. Là où il y en avait quatre, ça tombe à trois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Un tissu social à préserver. L'effritement de la vie de communauté au sein de ces villages inquiète particulièrement Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. Un dépanneur ou un petit resto dans un village, c'est souvent la place où une grande partie de la communauté s'arrête, prend un café, peut échanger ou se voir sans prendre de rendez-vous, souligne-t-il en entrevue au Devoir. M. Demers, qui est aussi maire de Sainte-Catherine de Hâtley, en Estrie, le voit aussi dans sa communauté. Souvent, le propriétaire du dépanneur sait ce qui se passe dans la municipalité beaucoup plus que moi, en tant que maire. Parce que tout le monde s'arrête là pour sa pinte de lait, pour ses œufs, ses chips, sa bière. Ces échanges et ce savoir se perdent avec la fermeture des commerces. Pour Jean-Philippe Meloche, la perte de ces espaces de socialisation n'est pas un nouveau phénomène. Il note, entre autres, l'exemple des nombreuses églises et paroisses qui ont vu leur nombre de fidèles diminuer au fil des années jusqu'à devoir, elles aussi, mettre la clé sous la porte. Les innovations technologiques, de la télévision jusqu'au téléphone intelligent, ont fait en sorte que les ménages se sont repliés sur eux-mêmes plutôt que de se tourner vers la communauté, et ce, tant dans leurs habitudes sociales que dans leur façon de consommer, fait valoir le chercheur. Un manque de financement qui se fait sentir. D'après Jacques Demers, ces fermetures en région montrent l'importance du financement des services de proximité qu'il faut réfléchir au-delà de la consommation. Ce besoin est particulièrement criant dans les zones rurales agricoles. Il ne faudrait pas obliger les gens qui nous nourrissent à se trouver dans des territoires où il n'y a pas de service non plus, soutient-il. Pourquoi s'établir dans de tels endroits sans commerce si, en travaillant dans d'autres domaines, on n'aurait pas à faire ce sacrifice-là? Le financement doit se faire au début du processus, lorsque des commerçants cherchent à s'installer dans une municipalité. Selon lui, c'est une solution plus long terme que sauver des entreprises existantes en difficulté, bien qu'il existe aussi des besoins sur ce plan. C'est comme ça qu'on devient attractif, explique-t-il. En 2022, lors de la campagne électorale, la coalition Avenir Québec avait promis aux municipalités un financement de 470 millions de dollars voué à pallier le manque de services de proximité, entre autres. Toutefois, selon le dernier budget du gouvernement de François Legault, seuls 50 millions seront investis auprès des municipalités sur 5 ans, soit 10 millions par année. Oui, ces 10 millions peuvent être un premier pas qui va nous permettre de voir de quelle façon on place les choses, mais on a besoin de beaucoup plus que ça, si on espère retenir ces services, conclut M. Demers. C'était de plus en plus de villages sans commerce au Québec, un texte de Sarah Boumedda et Jean-Louis Bordelot, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir.
Nous venons de loin, un texte de Raphaël Germain, paru le 10 mai 2024 dans la presse. Il y a eu un bref moment, il y a quelque temps, durant lequel les années 1980 sont revenues à la mode. J'étais un peu sidéré. Déjà? On a beau être au courant du cycle des tendances, il me semblait que c'était hier. Mais non. Ce présent dans lequel j'ai grandi est devenu une époque. Un jour, on dit à notre fille, pâmée devant Stranger Things, « Hey, j'avais exactement cette petite radio-là. » Et c'est ça aussi que j'écoutais. Et on voit dans son regard qu'on vient d'ailleurs. C'est un lieu avec des tapis mur à mur dans les salons, des cendriers à moitié pleins sur les tables, et des pains de viande dans les cuisines. de la serviette et de la marjolaine dans l'armoire. Des enfants prenant l'autobus seuls après l'école, avec autour du cou la clé de la porte d'en avant. Nous avions des salopettes et des pantalons de corduroy, des coupe-bols et des toupets, des kickers et des sandales en plastique pailleté. Nous regardions Passepartout et les merveilleuses cités d'or, Candy et Démétan. Calimero, cet éternel offensé, nous tapait sur les nerfs, mais nous l'écoutions quand même pour profiter de chaque seconde de dessin animé avant que commence le jour du Seigneur. Les jeux se déployaient sur le sol de nos chambres, des jouets genrés que personne ne remettait en question, des Barbie, des G.I. Joe, des pouliches et des bonhommes de Star Wars. Un kit de Lego, parfois, qui n'était que cela, un paquet de blocs colorés que n'accompagnait aucun plan. On construisait des maisons, l'occasionnel château, on espérait avoir assez de blocs transparents pour fenestrer correctement. Nous passions du temps dehors, beaucoup, et nous nous ennuyions souvent. Cailloux poussés du bout du pied et sillons creusés dans la terre de la cour avec des brindilles, à quoi on joue? On finissait par trouver. À l'Halloween, des Madonna dans Desperately Seeking Susan et des Luke Skywalker envahissaient les rues. Des centaines d'enfants avec des masques réduisant la visibilité, quand ce n'était pas carrément un drap sur la tête, percé de deux trous rarement en face des yeux. Des photos finima de l'époque montrent des petits Pères Noël aux barbes ouatées, des geishas en robe de chambre, des chefs amérindiens avec des coiffes de plumes en plastique. Nous avions peur des voleurs d'enfants, des drogués et des bombes nucléaires. Dans les films d'action, les méchants venaient toujours d'ailleurs. Ils étaient soviétiques ou vaguement orientaux, parfois même nazis. Et avaient tous en commun de s'attaquer à nos valeurs. Ce petit paquet d'opinions que nous étions convaincus d'avoir en commun avec tous ceux dont nous partagions le territoire. On parlait à la télévision des pluies acides. Nous imaginions alors des gouttelettes d'eau laissant de larges trous fumants là où elles tombaient. Nous nous donnions le défi de tirer la langue quand il pleuvait. Mon cousin y dit que son voisin l'a faite, puis que la goutte a passé à travers sa langue. Les bouteilles de vin que nos parents achetaient à la régie et les circulaires de distribution aux consommateurs finissaient aux poubelles, comme nos restants de table. L'anxiété n'existait pas dans le discours ambiant. Nous n'avions pour qualifier le mal de vivre que des mots durs et souvent méprisants. Les femmes étaient folles, et les hommes inquiétants. Nous avions tous une grand-tante ou une voisine qui se soignait à coups de Valium, peut-être un parrain qui prenait du lithium, mais aucun d'entre nous n'aurait imaginé prendre des médicaments pour soigner autre chose qu'une otite ou un mal de gorge. Les souffrances étaient levées au fond de nos petits cœurs. Eussent-elles affleuré que nous n'aurions pas eu les mots pour les nommer. Des territoires entiers nous étaient inaccessibles, faute de vocabulaire. Nous étions garçons ou filles. Ceux qui avaient de la difficulté à se concentrer étaient tannants. Celles qui n'arrivaient pas à différencier les B des D des épaisses. Personne ne fréquentait les champs lexicaux de la compassion et de l'empathie. Mais nous savions insulter ceux qui ne nous ressemblaient pas. Des ordinateurs apparaissaient dans certaines maisons, de gros objets beige et lin, qui nous intéressaient un moment, mais dont on finissait par se lasser. Nous retournions jouer dehors, lancer des balles de neige sur les Lincoln et les Pinto qui passaient devant la maison. Nul téléphone intelligent, évidemment, nulle plateforme d'écoute en continu, l'idée même de l'Internet complètement inaccessible. Les réseaux sociaux se tissaient autour des tables, dans les cours d'école, les ruelles et les stationnements des Perrettes. Nos parents devaient venir nous trouver pour nous dire de rentrer. Rien ne nous liait à eux ou aux autres en permanence. La possibilité d'être quelque part, sans que personne ne sache où l'on se trouve, existait, lourde de solitude et de liberté potentielle. Nous venons d'ailleurs, mais nous venons surtout de loin. C'était « Nous venons de loin », un texte de Raphaël Germain, paru le 10 mai 2024 dans La Presse.
Livre audio « Le Québec traîne la patte », un texte de Mario Girard, paru le 18 mai 2024 dans La Presse. Vous avez peut-être vu Joannie Tremblay et Sandra Felteau à l'émission « Dans l'œil du dragon ». Les deux entrepreneurs ont présenté leur jeune entreprise Nara, une plateforme d'achat et d'écoute de livres audio 100% indépendante. Les dragons ont écouté les deux femmes dans une quasi-indifférence. Georges Karam a tenté de trouver la particularité de leur entreprise. Nara offre uniquement des ouvrages en français. Pour le moment, le catalogue est composé de 10 000 titres francophones, dont 1 500 québécois. C'est ça, la particularité. Malgré cela, les dragons ont unanimement dit « je passe ». Peut-être que les dragons devraient lire le rapport sur la souveraineté culturelle à l'ère du numérique, présenté il y a quelques semaines au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Mais pour ces quatre investisseurs, qui trouvent que cette démarche est louable de la part d'une entreprise qui a l'air d'un OSBL, ce projet n'est pas rentable. Pourtant, le marché du livre audio est en forte progression partout dans le monde. Autrefois réservé aux malvoyants ou à d'autres personnes souffrant d'un handicap, il séduit maintenant le public en général. C'est l'effet balado. Les ventes ont bondi aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie et en Norvège. Les experts croient que ce format pourrait représenter plus de 20% des ventes mondiales de livres en 2030, soit 35 milliards de dollars. Les ventes représentent pour le moment un peu plus de 5 milliards. Ce marché est tellement attrayant que les géants du numérique ont sauté à pieds joints dans l'arène. Audible, Amazon, Apple Books et Spotify dominent cette industrie. Voilà pourquoi Nara se présente comme la seule plateforme québécoise réellement compétitive face à ces géants. De là mon allusion à la préoccupation que nous devrions avoir dès maintenant pour pérenniser cette industrie culturelle. Ce marché progresse partout, mais au Québec, il piétine. En 2020, les éditeurs ont bénéficié d'une enveloppe d'environ 22 millions de patrimoine canadien pour favoriser l'accessibilité. Plusieurs se sont lancés dans la production de livres audio. Il faut savoir qu'un ouvrage de longueur moyenne coûte environ 10 000 $ à produire en format audio. Narration, enregistrement, montage. Mais comme l'enveloppe n'a pas été renouvelée, les éditeurs ont cessé d'investir en ce sens. Et résultat, la production a chuté. Bref, c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Notre marché stagne. Parce que l'offre est minime, et l'offre est minime, parce que l'industrie ne la nourrit pas. Malgré ça, Joannie Tremblay et Sandra Felteau ne lâchent pas la grappe de raisin. Elles multiplient les démarches pour faire bouger les choses. En soutenant cette industrie, c'est tout un ensemble d'acteurs qu'on vient aider. Plateformes, studios de production, éditeurs, narrateurs, comédiens, musiciens, etc. Voilà ce que Sandra Felteau et Joannie Tremblay tente de faire comprendre aux décideurs. Et voilà ce qui n'intéresse pas les dragons. Au bureau de Mathieu Lacombe, on a demandé aux cofondatrices de Nara quels seraient les changements à apporter pour aider notre industrie du livre audio. D'abord, modifier la loi du livre, ont-elles dit. La loi ne considère pas le livre audio ou le livre numérique comme un livre. Cela veut donc dire que notre plateforme n'est pas reconnue comme une librairie. Ce que nous sommes, au fond, dit Sandra Felteau. Précisons que les librairies québécoises qui ont pignon sur rue ont droit à certains crédits d'impôt. L'autre aspect concerne l'aide à maintenir auprès des éditeurs pour permettre la production de livres audio. Ceux-ci reçoivent des subventions d'Ottawa et de Québec pour fabriquer les livres en papier. Il faudrait que le livre audio puisse jouir du même privilège. Je pose maintenant une question cruciale qui est au cœur de la bataille que l'industrie culturelle et le monde des médias mènent face aux géants du numérique. Si une aide accrue venait des gouvernements pour produire plus de livres audio, devrait-elle servir à nourrir ces mêmes géants? J'ose croire que cet aspect fera partie de la réflexion que plusieurs ont en ce moment à Québec et à Ottawa. Je vais aller plus loin et dire que si les livres audio se retrouvaient en grande majorité sur des plateformes comme Nara, plutôt que sur des plateformes étrangères, on n'aurait peut-être pas besoin d'aide financière, dit Sandra Felteau. Notre redistribution des revenus serait plus équitable et permettrait à ce marché de s'autosuffire. Notre industrie de la musique mène une bataille contre les géants du numérique en répétant qu'on a agi trop tard. Pour ce qui est du livre audio, il n'est pas encore trop tard pour prendre les décisions qui s'imposent. J'aimerais que notre entreprise devienne un fleuron québécois, dit Joanie Tremblay. Je pense que ce que l'on tient a un potentiel immense qui peut faire beaucoup pour notre société. Tout est en place pour que ça soit un projet rassembleur. C'était « Livre audio, le Québec traîne la patte », un texte de Mario Girard paru le 18 mai 2024 dans La Presse.
L'achalandage de la STM en hausse de 20 % par rapport à 2022. Un texte de Marc-Antoine Francouré paru le 2 mai 2024 dans Le Devoir. Avec un total de 288 millions de déplacements en 2023, la Société de transport de Montréal, STM, note une augmentation de 21 % de l'achalandage dans son réseau par rapport à l'année 2022. Le transporteur public a dévoilé son rapport d'activité pour l'année 2023, marqué notamment par une hausse de la clientèle. Cette augmentation s'explique, entre autres, par le retour en présentiel de télétravailleurs, par la reprise du tourisme et par la gratuité 65 ans et plus, explique la STM, qui mentionne néanmoins que le travail à distance continue de réduire la fréquence des déplacements pour plusieurs. L'achalandage du transporteur public a tout de même atteint en fin d'année près de 80 % du niveau pré-pandémique. De nouveaux chiffres qui placent désormais la STM au troisième rang des sociétés de transport au Canada et aux États-Unis en termes d'achalandage et en deuxième position pour son réseau de métro, d'après le transporteur public, qui s'appuie sur des données de l'American Public Transportation Association. Davantage de commentaires et de plaintes. Conséquemment, à cette hausse de la fréquentation de son réseau, la STM fait aussi état d'une augmentation de 10 % du nombre de commentaires et plaintes déposées par rapport à 2022. En tout, près de 38 000 plaintes ont été traitées, selon la Société de transport. Un bond qu'elle attribue au contexte social de plus en plus complexe, qui a eu un impact sur le sentiment de sécurité de la clientèle, particulièrement dans le métro. Pour pallier les préoccupations de ses usagers, la STM a ajouté une cohorte de 20 constables spéciaux sur le terrain et a créé la fonction d'ambassadeur de sûreté consacrée à la clientèle. Une série d'événements violents sont survenus dans le métro le mois passé. Un homme a été poignardé par des jeunes d'âge mineur à la station de métro Lionel-Groulx. Et la fille de la chroniqueuse de La Presse, Nathalie Connard, et de l'animateur de Québécois, Richard Martineau, a reçu un coup de poing au visage en soirée à la même station. Dans la foulée de ces incidents, la STM a confirmé accroître la visibilité de ses constables spéciaux et de ses ambassadeurs de sûreté dans 10 stations de métro. Des mesures qu'Ensemble Montréal jugeait insuffisantes, suggérant plutôt l'augmentation du nombre de constables spéciaux à la grandeur du réseau et la mise en place d'une assistance d'urgence par téléphone ou par texto pour la clientèle. Des infrastructures à moderniser. Plus de 90% des infrastructures de la STM dépasseront les 40 ans d'ici 2030. Elles nécessiteront donc une modernisation, fait valoir le transporteur public, qui a mis en avant les chantiers déjà menés à terme. La STM cite notamment les travaux d'accessibilité à la station McGill ainsi que la construction d'un puits de ventilation à la station Rosemont et du poste de ventilation mécanique Alexandre Desèves. Fin avril 2024, un document gouvernemental rendu public à l'Assemblée nationale a révélé que 9 stations du métro de Montréal, soit 13% de l'ensemble des stations, et certains tunnels étaient considérés comme étant en mauvais état. Outre ces stations et tunnels, 55 structures auxiliaires du métro, telles que les postes de ventilation mécanique et les postes de redressement, qui alimentent les voies en électricité, sont aussi jugés en piètre condition. La STM dit avoir multiplié les initiatives d'optimisation de plus de 57 millions de dollars en 2023. Elle affirme toujours échanger avec ses partenaires afin de trouver de nouvelles sources de revenus, tout en mettant en œuvre son engagement de générer 100 millions en réduction récurrente de ses dépenses, sans impacter le niveau de service offert à la clientèle dans les 5 années à venir. Dans son dernier budget, la STM avait pu dégager des économies de 50 millions de dollars grâce à des optimisations de services, mais demeurait aux prises avec un manque à gagner de 46 millions pour 2024. En février 2024, le transporteur public a annoncé abolir 230 postes et réduire le budget de biens et services afin de combler un manque à gagner de 36 millions de dollars. L'organisme avait toutefois assuré que cette cure minceur n'aurait pas d'effet sur les services dans son réseau. C'était l'achalandage de la STM en hausse de 20% par rapport à 2022. Un texte de Marc-Antoine Francoré, paru le 2 mai 2024 dans Le Devoir.